Donc tout ça pour dire que pour moi, écrire, ça commence déjà par là, ça commence par lire. Non pas pour copier, mais pour me dire, waouh, il bosse cela, faut que je bosse aussi. Alors, quand je me mets à ma table pour écrire, de quoi je dispose? Je dispose de deux choses. Je n'ai pas grand-chose. Hein. J'ai les mots et la ponctuation. Si je faisais du cinéma, j'aurais un peu plus de trucs. Hein. J'aurais le jeu des comédiens, le texte, la lumière, le son, le cadrage, le montage, etc. etc. Moi, j'ai très peu de choses. Les mots, la ponctuation. Et j'ai aussi quelques... C'est des principes ou des habitudes que j'ai depuis le début. J'ai commencé à écrire, j'étais très jeune, j'avais 12 ou 13 ans, je pense. Et déjà, dès le début, je me rendais compte que l'important pour moi, ce n'était pas l'histoire, ce n'était pas de raconter une histoire. L'important pour moi, c'était de rendre par la langue l'émotion. L'important, c'est l'émotion qui va sortir du livre. Et la langue, les mots, la ponctuation me servent à faire passer l'émotion et uniquement à ça. Deuxième chose, et dès le départ, je me souviens quand j'étais une jeune adolescente, déjà, je terminais jamais ce que j'écrivais, mais par contre, je le réécrivais X fois. Donc, écrire pour moi, c'est beaucoup retravailler, repasser. Et puis, dernière chose, écrire, c'est entendre mon texte à voix haute. Parce que j'ai besoin d'entendre comment ça sonne. J'ai besoin de l'entendre lu. Et du coup, je dis souvent que ce que j'écris, c'est un peu à cheval entre du roman, du théâtre, de la poésie, parce qu'il y a à la fois le besoin d'entendre sonner le texte, le rythme du texte, et puis il y a une histoire que je raconte finalement, mais on va voir que ça arrive au dernier moment dans mon travail. Alors, je vais prendre un exemple concret, je vais vous parler de mes deux derniers livres. Comment démarrer un livre? Mon avant-dernier livre s'appelle « Nu sous la lune ». Quand je veux démarrer un nouveau livre, en fait, je pars d'un thème dont je veux parler. Je voulais parler pour ce livre de la violence psychologique dans le couple. Donc je pars de ça uniquement, je pars d'un thème. Et puis, je peux de temps en temps écrire pour moi juste quelques anecdotes qui me viennent au sujet de ce thème, mais ce n'est pas du tout des choses que je vais reprendre telles quelles dans le livre. Voilà, j'ai juste ça. Et après, je ne cherche pas l'histoire. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je veux parler de la violence psychologique et je veux que ce soit une femme qui soit sous l'emprise d'un homme. J'ai juste ça. Ce que je vais chercher, ça va être la première phrase. Pour ce livre-là, j'ai mis beaucoup de temps pour trouver la première phrase. La première phrase, elle va me donner le départ, le lancement du livre. Quand je trouve la première phrase, je trouve le style, je trouve le ton du livre. La première phrase de ce livre, elle est très bête. 2 ans pour la trouver. Je ne veux pas penser à toi, je ne veux pas. Mais ça me dit quelque chose. Le jour où je la trouve, je me dis, c'est bon, j'ai quelque chose. Je sens que je suis juste. Je dis, je ne veux pas penser à toi, je ne veux pas. Ça me donne comme un ressassement. Ça va être répétitif, ça va être quelqu'un qui va se tourner dans la tête toujours, toujours les mêmes choses. Qui va parler à la première personne et qui va s'adresser à une autre personne qui est cet homme-là. Ça me permet aussi de mettre à la poubelle tout le truc des prénoms. Parce que alors, les prénoms, c'est une catastrophe dans les livres. Les prénoms, ça connote tout de suite un milieu social, une époque, ça dit plein de choses, un prénom. Si au lieu de dire ma première phrase, je dis « Jeannette ne veut pas penser à Raymond », vous dites « ils ne sont pas très jeunes ». Non, mais tout de suite. Et en plus, le son. C'est super dangereux, les prénoms. Alors, je ne vous en parle pas pour les traductions, etc. Dans ce livre-là, il n'y a pas un seul prénom. Je peux être traduite dans le monde entier avec un traducteur. Non, je rigole avec ça, mais les prénoms, c'est... Moi, si je peux les éviter, les prénoms, les noms de lieux, j'évite. Donc, pour ce texte-là, je commence avec cette première phrase. Et le jour où je trouve la première phrase, je trouve aussi une phrase dont je me dis, ça va être la dernière. Et la dernière phrase, et c'est vraiment la dernière phrase, c'est « Tu ne peux plus me faire de mal, tu ne peux plus. » Je ne sais pas ce qui se passe entre les deux. Je ne sais pas si elle dit ça parce qu'elle est morte, ou parce qu'elle s'est sauvée de se mettre là. Je ne sais pas ce qui se passe entre les deux. Mais je sais ma phrase de début, ma phrase de fin, mon rythme. Et à partir de là, je peux écrire. Alors, bon, j'arrête de parler, je vais vous lire ce que ça donne. Juste, je vais vous lire des extraits que je prends à plusieurs endroits du texte, pas du tout dans l'ordre. Donc, je vous situe quand même un peu l'histoire, parce que quand même, au bout, ça donne une histoire. Elle et lui sont sculpteurs. Lui est le maître, elle l'élève. Ça ressemble un peu à Rodin et Camille Claudel. J'ai utilisé c'est pas du tout leur histoire, je pense. Je pense que leur relation n'était pas celle-là. En plus, ça se passe de nos jours. Mais par contre, j'ai utilisé deux sculptures de Camille Claudel pour ce texte-là, qui me plaisent beaucoup, dont une dont je vais parler là en lisant le texte, que moi j'ai rebaptisé, je ne sais même pas quel est son nom, peut-être ça s'appelle comme ça, je ne sais pas, que j'ai rebaptisé L'homme recroquevillé, qui est une très belle sculpture d'un homme replié sur lui-même. Je pense que c'est moi qui l'appelle L'homme recroquevillé, c'est bizarre comme titre. Et donc ces deux sculpteurs vivent ensemble dans l'atelier du maître et avec beaucoup de gens autour de lui. Je vais vous lire plusieurs extraits, quelques extraits de ce texte. Je me lève parce que j'ai mieux dedans. Enfin mieux, je me sens mieux. Pourquoi n'ai-je pas réussi à te quitter plus tôt ? Pourquoi m'a-t-il fallu attendre d'en arriver à une telle extrémité ? Les derniers temps, je me sentais comme une bougie sur sa fin, une bougie qui se consumerait encore quelques secondes, qui palpiterait à peine avant de très délicatement, presque imperceptiblement, s'arrêter d'être. Je pensais que lorsque les autres enfin se retourneraient vers moi, ce serait trop tard, qu'à ma place, ils ne trouveraient qu'un peu de cire fondue, que peut-être même personne ne se rendrait jamais compte de ma disparition. J'ai tellement pris l'habitude d'être invisible. C'est venu tout doucement. J'ai été là de moins en moins. Je me souviens d'un jour, à l'heure du repas, nous étions tous assis autour de la table et toi tu parlais au téléphone. Nous distinguions parfaitement ta voix, chacune de tes paroles. Ce que devait te demander ton interlocuteur n'était pas difficile à imaginer. Tu lui expliquais que la semaine suivante, tu en étais désolé pour lui, tu ne pourrais pas le recevoir car tu serais absent. Nous t'entendions lui dire cela. Tu aurais pu ajouter que moi seule resterais sur place, mais tu ne l'as pas exprimé ainsi. Tu as dit très exactement, il n'y aura personne. Tu as dit cette phrase-là, ces mots te sont venus comme une évidence. Il n'y aura personne. Je crois que c'est ce que j'étais devenue. Personne. Est-ce qu'auprès de toi, vivre pouvait s'appeler vivre ? Cela ne tenait-il pas plutôt de la survie ? Des années durant, j'ai gaspillé toute mon énergie à maintenir opiniâtrement ma tête au-dessus d'une fange épaisse qui ne demandait qu'à m'aspirer. J'ai lutté contre la tentation de me laisser embourber. Chaque matin, je profitais de me lever quelques minutes après toi pour trouver mon souffle. Dans ce court intermède de solitude, je me préparais à affronter la journée à venir. Je me gonflais d'air, me blindais, me verrouillais de partout. Ensuite seulement, forte, ou me persuadant de l'être, je pouvais te rejoindre. Tu te tenais dans cette grande pièce qui sert de cuisine et de salle à manger, qui est aussi ton bureau, cette grande pièce à l'immense table. Tu siégeais tout au bout, ton fauteuil trônait là. Au matin, quand je quittais l'étage et descendais vers toi, tu étais déjà dans ce fauteuil, un crayon à la main, penché sur une esquisse ou feuilletant des documents. À ma venue, tu ne levais pas la tête. Tu savais que c'était moi, et ça ne t'intéressait pas. Je crois qu'un temps, je t'ai murmuré quelque chose, un timide bonjour. Puis très vite, je n'ai plus rien dit. inutile, trop de vide en face. Jamais, pas même les premiers jours, je n'ai osé m'approcher du fauteuil pour t'embrasser. Ma place était à préparer le petit déjeuner. La journée pouvait commencer. Très rapidement, j'ai arrêté de passer du temps sur mes propres pièces. Il y avait tant à faire. Les heures que je leur consacrais me semblaient d'une frivolité malvenue. Je ne me rappelle pas que tu m'aies un jour fait une remarque à ce sujet, mais tu n'avais pas besoin de me dire les choses pour que je les entende. J'ai préféré m'immerger dans le vrai travail, le tien, le noble. J'effectuais des tâches délicates ou ingrates, et aussi épuisantes soient-elles, j'étais fière d'être celle à qui tu les confiais. Je me savais robuste, le corps comme l'esprit dur au mal, vaillant. Je m'acharnais, j'œuvrais du lever au coucher jusqu'à ne plus sentir mon dos, mes bras, mes épaules, jusqu'à tomber d'épuisement. Quand, à bout de force, je m'asseyais, tu me disais alors ton étonnement de me voir si peu résistante. Je me souviens qu'avant toi, je ne comprenais pas que certaines femmes puissent accepter d'être maltraitées, qu'elles ne se révoltent pas, ne réagissent pas, ne fuient pas, qu'elles s'entêtent à rester malgré les coups. À présent, je comprends.